Julien Traxel.
Des frappes israéliennes ont ciblé cette nuit des sites militaires sur la côte syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les tirs ont visé la région de Tartous, où se trouve notamment une base navale russe. L'organisation non gouvernementale précise que les avions de combat israéliens ont bombardé des unités de défense aérienne et des dépôts de missiles sol-sol. L'ONG a qualifié ces frappes de plus lourdes depuis 2012 dans cette région. Passage sans problème au nouvel horaire des CFF. L'ex-régie fédérale a indiqué que les changements sont entrés en vigueur hier avec succès. En Suisse romande, où les modifications n'ont pas été aussi nombreuses depuis plus de 20 ans, les trains ont pu tenir la nouvelle cadence et sont arrivés à l'heure. Mais cet horaire connaîtra son véritable baptême du feu ce lundi matin avec le début du trafic professionnel et des pendulaires. La population suisse est favorable à une interdiction des téléphones portables dans les écoles. Un sondage de l'Institut Sotomo publié hier révèle que plus de 80% des personnes interrogées soutiennent une telle mesure. Même les jeunes âgés de 18 à 25 ans se trouvent pour deux tiers d'entre eux dans le camp du oui. Réalisé sur mandat de la Maison Bernoise des Générations, ce sondage a recueilli les impressions de plus de 2700 personnes de Suisse alémanique et de Suisse romande entre septembre et octobre. Mauvaise nouvelle pour Caritas Fribourg. La section cantonale de l'organisation d'entraide va devoir composer avec une baisse de ses revenus. L'église catholique fribourgeoise, l'un de ses plus importants donateurs, a annoncé hier qu'elle allait réduire son soutien. Le don annuel auprès de Caritas Fribourg diminue de 20 000 francs, ce qui représente une baisse de 9%. Pour expliquer cette situation, l'église catholique fribourgeoise met en avant la mauvaise santé économique des ménages du canton. Elle reçoit ainsi moins d'argent via l'impôt ecclésiastique. La Corée du Nord a fini par réagir à la destitution du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Pyongyang l'a qualifié ce lundi de chef de la rébellion. Yoon Suk-yeol est visé par une enquête pour rébellion après avoir justifié l'introduction de la loi martiale par sa volonté de protéger la Corée du Sud des forces communistes nord-coréennes. Ce crime est passible de la peine de mort. En football, le Lausanne Sport passera les fêtes sur le podium de la Super League. La formation vaudoise est allée gagner hier son dernier match de l'année sur le terrain de Lugano. Face au leader du classement, les joueurs du LS se sont imposés 4-1, de quoi revenir à une longueur des Tessinois. De son côté, Servette a bouclé son année par une défaite. Les Genevois ont été battus 2-1 à Berne par Young Boys. Et en tennis, Victoria Golubic a remporté hier la finale 100% suisse du tournoi WTA de Limoges. La Zurichoise a battu sa compatriote Céline Neff en 2-7, 7-5, 6-4. Du soleil au programme en ce début de semaine dans le ciel romand, sauf au nord de l'arc jurassien et sur le canton du Jura où le temps s'annonce nuageux. En pleine, les températures maximales ce lundi oscilleront entre 5 et 7 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 2h.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
À 8h ce matin, une centaine de gendarmes ont investi la commune d'Olon, accompagnés de chiens policiers, pour permettre aux géologues mandatés par la CEDRA d'effectuer les travaux.
Avec le podcast 1001 Archives, revivez des moments de l'histoire suisse. 1001 Archives, à écouter sur l'application Play RTS, rts.ch/audio, Spotify, Apple Podcasts et la plupart des plateformes d'écoute.
RTS Première. Comme une lueur dans la nuit.
Après 4 mois d'audience, le procès des viols de Mazan touche à sa fin. La cour criminelle du Vaucluse devrait rendre son verdict le 20 décembre pour 51 co-accusés avec des peines requises entre 4 à 20 ans de prison. Ce procès est l'occasion depuis plusieurs mois de faire une campagne de sensibilisation sur ce qu'est la soumission chimique. Soumission chimique qui désigne l'administration délibérée de substances psychoactives à une personne sans son consentement, dans le but de réduire sa capacité à résister. Notre invitée aujourd'hui a fait de ce combat sa priorité. Sandrine Josso, députée française, victime de soumission chimique, a porté ce sujet à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la presse, depuis des semaines et des semaines, avec une remarquable combativité. Bienvenue dans Question Genre. Cette émission aborde des sujets sensibles liés à la soumission chimique, y compris des descriptions d'actes non consentis et de substances utilisées à des fins malveillantes. Veuillez prendre soin de vous et envisagez de ne pas l'écouter si ces thèmes risquent de vous affecter.
Question Genre, Christine Gonzalez.
Sandrine Josso, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée à l'Assemblée nationale, vous êtes la marraine de l'association Mandorpa, une association qui lutte contre la soumission chimique. Une des victoires aussi, j'imagine, dans cette lutte-là, c'est de voir à quel point les gens maintenant comprennent mieux ce que veut dire soumission chimique.
Oui, c'est un bon début. Moi-même, quand ça m'est arrivé, la première personne qui m'a prononcé cette expression me l'a apprise. Je ne savais pas ce que c'était la soumission chimique. Et maintenant, je pense que si on fait un micro-trottoir, on verra que beaucoup de personnes sont capables de faire le lien entre le procès qui a lieu actuellement à Avignon et la soumission chimique. C'est déjà un bon début.
Oui, on sait que mettre les choses en mots, c'est déjà une manière d'avancer. C'est important de trouver les mots, d'avoir les mots et de reconnaître ce qui se passe.
Absolument. C'est fondamental et c'est le départ de quelque chose. Maintenant, il y a d'autres sujets derrière. C'est la possibilité d'identifier précisément la soumission chimique, parce que très souvent, c'est quelque chose qui est difficilement détectable, c'est assez insidieux, et c'est bien d'avoir des témoins, mais parfois, certaines personnes peuvent être des témoins aveugles. Je pense notamment aux enfants de Gisèle Pellicot, qui, pendant des années, était à côté d'elle, mais ne savait pas qu'elle était soumise chimiquement. Elle avait des absences, elle avait des pertes de mémoire, et il pensait que c'était peut-être dû à une maladie neurodégénérative ou une maladie qui la faisait s'absenter à certains moments de la réalité, alors que en réalité, eh bien, c'était dû à sa soumission chimique.
Des années d'errance médicale en ce qui concerne son cas, ouais.
Des années d'errance de diagnostic, et c'est aussi cette conscience qui est en train de naître dans l'esprit aussi du personnel soignant, notamment des médecins, qui n'ont pas eu l'habitude d'investiguer ce champ qu'est la soumission chimique. Et c'est vrai que la soumission chimique demande à investiguer le doute. Si quelqu'un vous fait part d'absence, de trous de mémoire, de changement de comportement, d'un sommeil très lourd, eh bien, investiguez le doute. La première chose à faire quand quelqu'un se confie à vous, c'est de l'écouter et de lui poser des questions.
Parfois, on ne se rend pas compte que c'est la soumission chimique, parce qu'on a aussi une idée, même si on commence à comprendre ce qu'est la soumission chimique, on a une idée aussi assez stéréotypée de quand ça se passe, où ça se passe. On pense aux boîtes de nuit, le GHB dans le verre, alors que la soumission chimique, ça peut se passer n'importe où et n'importe quand.
Oui, c'est une fausse idée. On parle notamment d'endroits publics comme des boîtes de nuit, des bars de nuit, alors que la soumission chimique s'opère la majeure partie du temps dans la sphère privée, amicale, familiale, et dans, on va dire, 90% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Ce n'est pas un inconnu.
Vous, en l'occurrence, c'est ce que vous avez dénoncé, c'est qu'un ami et collègue de plus de 10 ans vous a drogué à votre insu.
C'est ça, moi je le connaissais depuis 10 ans. Gisèle Pellicot, c'était son mari, donc ça donne quand même une idée de l'ampleur de ce qui peut se passer dans la sphère privée avec la soumission chimique.
Comment vous avez compris que vous étiez drogué ?
Quand j'étais dans cette soirée, j'ai bu en fait quelques gouttes d'un verre de champagne, et j'ai au bout de quelques minutes ressenti des nausées, des palpitations très fortes, et je me suis sentie gênée parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'était la première fois que je me sentais aussi mal après avoir bu quelque chose. Et j'ai pensé que peut-être que j'avais faim, donc j'ai mangé et ça ne passait pas. Et j'étais tellement mal qu'à un moment donné, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose d'anormal. Et mon instinct m'a poussée à aller regarder dans la cuisine, parce que il avait récupéré mon verre et il l'amenait dans la cuisine. Et là, j'ai regardé ce qu'il faisait. parce que moi j'étais dans le salon, cette curiosité m'a fait voir qu'il tenait dans la main un sachet. Et j'ai compris que ce sachet, c'était un sachet de drogue. Et à partir de ce moment-là, j'ai récupéré des forces, je ne sais où, parce que je me sentais tellement mal. Tout tournait autour de moi. Je me suis levée et je lui ai dit que j'allais retourner travailler à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, en France, on a une pause, en fait, entre 20h et 21h30 pour aller dîner, et après, on retourne à l'Assemblée. Et il a tenté de me retenir, et je suis restée on va dire droite dans mes bottes, malgré que tout tremblait autour de moi, et je me suis échappée. Il m'a suivie sur le palier, dans l'ascenseur, dans la cour de l'immeuble, dans la rue, et j'ai réussi à me réfugier dans un taxi, et j'ai demandé à ce taxi de m'emmener à l'Assemblée nationale. Et là, j'ai demandé de l'aide auprès d'un collègue qui a tout de suite compris que j'étais en train de vivre une soumission chimique. J'ai eu de la chance de tomber sur ce collègue qui était informé. Et là, il m'a dit « il faut vite que tu ailles faire des prises de sang ». Et j'étais dans un état de terreur, parce que en même temps que je savais que j'avais été droguée, eh bien j'avais des palpitations qui me faisaient peur, parce que j'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque.
Parce que vous avez reçu trois fois la dose récréative de...
Absolument, une dose très 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 importante. Mm-hmm. Je l'ai compris après, mais sur le moment, je peux vous assurer que les malaises étaient très profonds. Je n'ai jamais été aussi mal de ma vie, en vrai.
Au juge d'instruction, vous direz, je suis venue voir un ami, j'ai découvert un agresseur, et je suis ressortie en victime.
C'est exactement ça, et aujourd'hui je me bats pour toutes les victimes qui n'ont pas de preuves. Et il faut savoir que 99% des victimes n'ont pas de preuves. Et c'est bien là le problématique, et c'est là aussi qu'on doit avancer.
Vous pensez aux victimes beaucoup, et c'est à elles que vous pensez, même il y a un mois, quand vous sortiez de 4 heures de confrontation face à votre agresseur. C'est une immense épreuve, évidemment. Et en sortant du tribunal, ouais, c'est aux victimes que vous pensez, c'est à elles qui vous adressez.
Oui, parce que j'ai aussi, dans mon histoire, eu d'autres victimes qui m'ont témoigné. Et ces personnes m'ont dit, quand vous avez parlé, j'ai compris parce que vous expliquiez ce qui m'était arrivé. Et c'est important de connaître le mode opératoire et de comprendre ce que ça fait d'être drogué à son insu, ce que ça fait dans notre tête et dans nos corps.
Sandrine Josson, on se retrouve dans quelques instants, le temps d'écouter Rag & Bone Man, Rush of Blood.
Something has gotta give. Why does it weigh so heavy on my mind? Why do I contemplate it every time? I use the darkness to forget it. Darkness to forget it. Know that when I get it. I'm
Question genre avec la députée française Sandrine Josso, marraine de l'association M'endors pas, une association qui lutte contre la soumission chimique. On parle souvent dans la presse des agresseurs, évidemment, et peut-être pas assez des victimes. J'aimerais qu'on parle un peu des victimes avec vous, Sandrine Josso. L'histoire de Gisèle Pellicot nous le démontre bien. Il faut parfois énormément de temps pour réaliser qu'on est victime de soumission chimique. Quelles sont les conséquences, les traumatismes pour ces victimes-là, pour les victimes de soumission chimique?
Oui, vous avez raison, il faut parfois énormément de temps pour réaliser. C'est en en parlant, comme Gisèle Pellicot l'a fait, comme je le fais, comme d'autres victimes aussi parfois ont pu faire des témoignages sur les réseaux sociaux, au travers de livres. C'est important parce que comme c'est tellement soudain en fait de comprendre ce qui nous est arrivé, c'est tellement soudain d'être donc drogué à son insu que c'est ce qu'on appelle un traumatisme. Et quand on vit un traumatisme, parfois on peut avoir une amnésie, comme si notre cerveau en fait quelque part se mettait en fait dans une situation où c'est tellement dur qu'on veut plus avoir cette mémoire. Et moi-même je ne connaissais pas en fait ce qui peut se passer quand on a ce genre d'épreuve dans une vie. Le traumatisme et le psychotrauma. Alors c'est quoi? Le psychotrauma, c'est quand vous avez vécu donc une expérience traumatisante, agression par exemple, un viol, eh bien votre cerveau, il reste dans le souvenir de cette expérience. C'est comme si votre corps, au fur et à mesure du temps, avance, mais votre cerveau y reste dans la mémoire du traumatisme. Il a l'impression d'être figé. En fait, on se fige avec un psychotrauma. Alors, ça se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, dans la vie quotidienne, lorsqu'il y a un bruit soudain, quelque chose que vous n'appréhendez pas, eh bien, vous avez ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Vous sursautez énormément. Moi, aujourd'hui, ça me handicape, ça me fatigue au quotidien d'être comme ça, dans cette hypervigilance. Je travaille pour diminuer tout ça, mais c'est long. Il y a des méthodes qui sont par exemple l'EMDR. C'est une méthode qui consiste à faire diminuer l'intensité émotionnelle d'un ressenti pour que ce soit beaucoup plus supportable. Le psychotrauma, pour vous donner des exemples aussi dans le quotidien, c'est comme si vous étiez dans une voiture et que vous voulez avancer dans votre vie, vous êtes vraiment le pied sur l'accélérateur, mais vous avez la main sur le frein à main. Mmh. Et c'est ça. Et c'est très long. Et si on n'a pas, à ce moment-là, quelqu'un qui peut nous aider, je parle par exemple d'un psychologue, d'un psychiatre, pour en fait faire en sorte que ce psychotrauma passe et donc diminue avec le temps, eh bien, ça s'ancre et ça fait des ravages. Moi-même, je suis accompagnée, mais voyez, je dois travailler sur plein de choses. J'ai par exemple travaillé sur le fait que je ne savais pas pourquoi, mais dès que j'étais devant un digicode, j'étais en panique. Je ne savais plus, en fait, lever mon bras et composer un numéro sur un digicode. Pourquoi? Parce que ce soir-là, j'ai compris que quand je suis allée chez ce collègue sénateur qui m'a droguée, j'ai composé un code sur son digicode. Et voyez, en fait, c'est des associations traumatisantes comme ça. Bon, voilà, je vous donne des exemples, mais c'est important.
Ouais, c'est important.
Après, quand j'entendais le mot « sénateur », je me suis retrouvée, comme je suis députée, je me suis retrouvée dans des réunions où on parlait de sénateur. Donc, dès que j'entendais le mot sénateur, j'avais des nausées, comme les nausées que j'ai eues lorsque j'ai eu tous les ressentis de cette substance qu'il m'a mis. Hein, ça s'appelle de la MDMA, c'est vraiment une drogue. Et il m'a fallu donc travailler là-dessus. Et pendant 15 minutes, j'étais toujours avec ces symptômes. Donc c'est un travail que j'ai fait avec mon psychologue pour diminuer tout ça. Et vous vous rendez compte comment dans le quotidien ouais. ça pollue votre quotidien. Donc si vous n'êtes pas accompagné, c'est pas possible de vous en remettre tout seul. Il faut vraiment bien comprendre ça. C'est une nécessité, vraiment une nécessité.
Là, vous nous expliquez à travers quelques exemples l'impact que ça a dans votre quotidien et plus largement aussi, je me posais la question sur votre vie sociale. C'est-à-dire que là, vous faisiez par exemple confiance à un ami. Après ça, comment faire confiance? Comment refaire confiance?
Oui, le lien à l'autre, c'est une trahison énorme. Bien évidemment, vous avez tout ce côté où vous ressentez cet empoisonnement, et en même temps, comme c'était un ami que je connaissais depuis 10 ans, c'est très dur. Et après, au fur et à mesure du temps, quand j'ai découvert, après tous les dosages et les enquêtes, qu'il m'a mis 3 fois la dose récréative, ça veut dire que selon mon état de santé, malheureusement, certaines personnes meurent quand on a un dosage pareil. Donc ça, je me dis, ça renforce, ça caractérise ce qu'il a voulu me faire, et c'est vraiment très difficile. Et c'est vrai que ça peut nous faire ressentir de la colère, mais beaucoup de trahison. Et ça, c'est difficile après pour établir des liens avec les autres. Ouais. Et ça fait partie aussi de la nécessité de la reconstruction et se faire confiance. Alors heureusement quelque part que ça m'est arrivé à la quarantaine, parce que plus jeune. Et je pense aux enfants, je pense aux adolescents, aux personnes très jeunes à qui ça arrive. Mais vous imaginez le drame. Le drame, moi à mon niveau, évidemment, j'ai eu une souffrance immense en comprenant tout ça, en vivant tout ça. Mais quand vous êtes un enfant, quand vous êtes une personne vulnérable, c'est... mais pas possible de continuer à tolérer ça dans notre société.
Vous avez senti, Sandrine Josso, en vous la force de rendre l'événement public très vite. Est-ce que vous avez senti, comme beaucoup de victimes, que votre parole était remise en cause? Parce que voilà, c'est un sujet. Je ne sais pas si vous avez vu passer, ou peut-être même vous y étiez lorsque Julia Foyce disait récemment lors d'une table ronde qu'elle comprenait que les femmes ne portent pas plainte, qu'elle a été broyée une deuxième fois. Y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte parce qu'elles sentent que ça pourrait les anéantir encore plus.
Mais oui, et c'est ça le plus grand drame, la plus grande tristesse, c'est que porter plainte aujourd'hui, en fait, c'est presque un acte révolutionnaire parce que les conséquences sont très importantes. Et donc, au lieu d'être accompagné quand vous portez plainte par la société, et ben malheureusement, à plein d'endroits, vous vivez des épreuves parce que vous êtes jugé. Moi-même, j'ai décidé de porter plainte, c'était très clair dans ma tête. Quand j'ai compris ce soir-là ce qui m'est arrivé, quand je suis arrivée à l'hôpital de Lariboisière où j'ai eu mes prélèvements de sang et d'urine, quand j'ai discuté avec les médecins et qu'ils m'ont dit qu'il y avait des personnes comme moi qui arrivaient tous les jours aux urgences, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'en parle, surtout que là, moi j'ai des preuves. Et je ne savais pas que les preuves étaient si difficiles à obtenir par manque de réactivité, par manque de maillage territorial, par manque d'information, de personnel donc soignant, formé. Vous voyez, et donc ça, toutes ces femmes qui n'osent pas porter plainte, mais je les comprends tellement. Moi, mon agresseur, il a agressé d'autres personnes avant moi. Et ces femmes, elles se sont confiées à moi. Mais pour plein de raisons, et je les comprends, elles ne souhaitent pas porter plainte, parce que porter plainte, c'est s'exposer, parce qu'elles ont compris ce qui leur est arrivé quand j'ai raconté comment ils faisaient, c'est-à-dire le mode opératoire. Moi, il a utilisé des Faritas. Elles ont vécu des soirées où, effectivement, c'était exactement le même mode opératoire. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas de preuves. Et je me bats aussi, parce que mon agresseur, il a malheureusement agressé d'autres femmes avant moi. Et ces femmes-là, elles ont que leurs yeux pour pleurer. Donc je me dois, étant donné que je l'ai identifié et que j'ai pu avoir des preuves, aussi me battre pour elles. Une a appelé le commissariat pour expliquer ce qu'elle a vécu. Mais elles ont tellement en elles de la douleur, elles sont pas réparées, elles ont tellement de souffrance, elles ne peuvent pas avoir l'énergie que j'ai pour porter plainte. Et c'est aussi pour elles que je me bats.
La question de la honte aussi, ce
elles
mot-là.
Ont
la,
elles ont ça. Ouais. Elles ont ça. Mais oui. Mais oui. Et ça, c'est terrible, la honte. Alors moi, depuis très longtemps, la culpabilité, tout ça, c'est sorti de moi parce que je me suis affranchie de ça. Mais encore une fois, il m'a fallu du temps, il m'a fallu du travail pour m'affranchir de cela, parce que on est quand même dans une espèce d'emprise du patriarcat, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs dans la société. Il y a cette emprise du patriarcat qui est là. Et que quand une femme s'affranchit, quand elle prend des libertés, eh bien, on l'empêche. On la juge. Alors qu'elle est juste dans son expression d'elle-même, mais dans notre société. Aujourd'hui, une femme libre qui dit les choses, qui s'affranchit, est obligatoirement jugée de manière négative par beaucoup de personnes. Et malheureusement, ça, c'est quand même dramatique. Et il faut que là, ça change. Il faut vraiment qu'on soit aussi dans une société beaucoup plus inclusive de la liberté de la femme. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais je pense que des personnes comme Gisèle Pellico, comme d'autres, comme moi aussi, comme Caroline Darian-Perronnet, vous voyez, il y a plein de femmes qui sont là aussi pour montrer le chemin et voilà, d'ouvrir aussi un champ des possibles pour rétablir la légitimité de toutes ces victimes.
Sandrine Josso, on va parler justement du procès des viols de Mazan. Ce sera juste après Zao de Sagazan, Les Dormantes.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux. Savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares. Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement à... au
paupières des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Après 4 mois d'audience, le procès des viols de Mazan touche à sa fin. Sandrine Josso, comment vous vivez ce procès depuis toutes ces semaines? Vous qui connaissez bien Gisèle Pelicot, surtout sa fille aussi, Caroline Darian, vous apparaissez souvent à ses côtés dans la presse. Comment est-ce que vous vivez ces quelques semaines?
Depuis le 2 septembre, où je me suis rendue à Avignon, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit aussi dans cette salle d'audience. Quelque part, on peut avouer que là, c'est la réalité en fait. Elle permet, Gisèle Pelicot, en ouvrant ce procès devant les yeux de tout le monde, de montrer ce qu'est la réalité des souffrances des victimes, la réalité de comment opèrent ces prédateurs en série. Et on a quand même aussi cette compréhension de cette possibilité de voir aussi tout ce qu'il y a de noir chez certains individus. Heureusement, tous les hommes ne sont pas aussi noirs, aussi dénués d'empathie. Heureusement. Néanmoins, c'est la réalité de ce que vivent énormément de victimes qui est révélée. Et puis tous nos manquements aussi, hein, dans la perception des victimes, dans la façon dont on les questionne. Gisèle Pelicot a expliqué à de nombreuses reprises qu'elle était parfois dans des situations où on lui a posé des questions piégeuses, on a tenté de l'humilier, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et vous voyez, ça explique aussi pourquoi les victimes n'osent pas porter plainte, parce que c'est difficile encore aujourd'hui de dire les choses, parce que derrière c'est beaucoup de violence en fait, et c'est un grand paradoxe, parce que s'enfermer dans le silence, c'est souffrir. Les conséquences sur la santé mentale, la santé physique des victimes de toutes ces agressions, elles sont immense. Et c'est pour cela que je me bats, parce que je crois que par la santé, par cette compréhension de l'impact sur la santé des victimes des agressions, on va pouvoir avancer. Et c'est ce qu'il y a de plus, moi, ce qui me bouleverse vraiment, c'est toutes ces victimes qui me témoignent ce qu'elles ont vécu. Pour certaines, elles ont du mal aussi de faire des relations de cause à effet, mais toutes me disent, mais ma santé, elle a vraiment chuté. Je n'ai plus une bonne santé mentale. J'ai eu énormément de pathologies qui sont arrivées parce que j'étais en fragilité. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai vécu aussi quelque part, parce que quand j'ai compris que j'étais dans un stress post-traumatique, évidemment, j'ai travaillé sur le plan psychologique. Mais à un moment donné, c'était au mois de mars dernier, et bien mon corps a complètement lâché. Et là, je me suis retrouvée dans une situation de déprime totale, parce que je me suis fait une hernie discale, une sciatique. Et en fait, c'est les kinés, hein, m'ont expliqué que malheureusement, très souvent, les victimes vivaient des maux dans leur corps, des douleurs physiques énormes. Et j'ai compris à ce moment-là que ouais, il fallait continuer à se battre avec toutes les bonnes volontés. Et dans ce procès, Gisèle, elle a oublié beaucoup de choses en fait, parce que elle n'était pas consciente. On lui a quelque part créé des souvenirs. Et je pense aussi à elle parce que ces souvenirs créés, c'est quelque chose qu'elle va certainement aussi devoir travailler derrière. Et je pense aussi à Caroline Darian-Péronnet, donc la fille de Gisèle, et puis aussi à son petit fils, à Gisèle, qui s'appelle Nathan, qui en fait souffre parce que eux, ce sont aussi les oubliés, c'est-à-dire que ils se savent victimes, mais ils ne peuvent pas prouver tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire aussi par la société, par la conscience, mais aussi dans la loi. Je pense à certains sujets qu'il va falloir regarder de près pour avoir des preuves et travailler sur des moyens.
Évidemment,
de faire en sorte qu'on identifie mieux les modes opératoires des prédateurs.
Oui, vous êtes politicienne, donc évidemment, vous pensez à la loi. La dimension collective de l'affaire, c'est aussi extrêmement passionnant, et c'est en cela aussi qu'on parle beaucoup de basculement dans le cas du procès, basculement dans les combats féministes, parce que ce qui est important de dire, c'est aussi qu'en termes de genre, les drogueurs sont essentiellement des hommes et leurs victimes essentiellement des femmes. Et ce procès, du coup, à plein de différents moments, révèle des enjeux de domination. Certains accusés, par exemple, racontent encore que les viols de Gisèle Pelicot, c'était un jeu libertin, parce qu'il plaçait la décision du mari au-dessus de tout. Considéré donc comme un argument à faire valoir, c'est une autre manière de dire que cette femme était au fond la propriété de son mari, et qu'à partir de là, c'est OK. Et donc, il y a toute cette micro-société qui se joue aussi au sein même de ce procès sur les enjeux de genre.
Oui, tout à fait, et on entend bien dans cette salle d'audience comment tous ont choisi de démissionner de la pensée. Ils avaient pourtant leur libre arbitre, mais leur pulsion, leur perversion à dominer tout ça. Et voyez, c'est ce qu'on peut se dire aujourd'hui, que finalement ce sont des opportunistes, en fait, tous ces agresseurs, et que aujourd'hui la société, elle sait. C'est aussi un moment de vérité, ce procès, parce que ce procès, il rend visible l'invisible. Et voilà, maintenant on ne peut plus dire que la société ne sait pas.
Oui. C'est un article récent du Monde que j'ai trouvé hyper intéressant, qui disait que le procès des viols de Mazan suscite introspection, mais aussi division chez les hommes. Il y en a certains qui se distancient en disant qu'ils se sentent pas concernés, que ce sont les autres, ce sont les monstres, et d'autres qui reconnaissent la nécessité de réfléchir à leur rôle dans la société. Et ça aussi, j'ai l'impression, en tout cas dans la francophonie, que c'est nouveau, que c'est là, que c'est maintenant que ça arrive.
Oui, ça permet aussi de savoir où on en est. Vous avez raison, c'est aussi quelque part la révélation de plein de manquements dans notre société. Puis c'est aussi la possibilité de tout à chacun de se dire mais moi où j'en suis par rapport à l'horreur qui est relatée à travers ce procès, à travers ce qu'a vécu Gisèle Pelicot et sa famille. Où j'en suis, et on fait un bilan, et c'est intéressant de faire ce bilan et de se dire que malheureusement, parfois, certaines personnes se mentent par plein de moyens. Gisèle Pelicot l'a très bien dit, la lâcheté parfois. Oui. Et puis parfois aussi le déni, et aussi quelque part comme un manque de volonté.
Un manque d'intérêt. C'est Florian Verros, oui, que j'ai déjà reçu ici, qui dit que la violence sexuelle ne s'explique pas seulement par un manque d'éducation, mais aussi par un manque d'intérêt et d'engagement des hommes.
Mais oui, ça s'inscrit bien là. Et il y a tellement d'hommes qui font bien les choses. Et c'est vrai que ces hommes-là sont très, choqués par ces comportements de ces hommes qui osent se comporter de cette manière aussi monstrueuse. Mais encore une fois, un homme, même en 2024, quelque part, il subit aussi le regard de la société, qui est encore à plein d'endroits très machiste. Et c'est pas toujours facile. pour un homme de s'affranchir de ce machisme parce qu'il y a des pressions sociales, des pressions parfois aussi très très personnelles, des pressions familiales. Et je trouve que ces hommes-là sont très courageux parce que un homme qui accepte en fait tout simplement sa part féminine, c'est un homme qui témoigne qu'il va bien. Et c'est aussi se dire ça que certains hommes ne vont pas bien et ça ne les excuse pas. On peut juste expliquer les choses, mais qu'il va falloir faire différemment, parce que être en harmonie avec les autres, que ce soit pour les relations hommes-femmes, les relations aussi avec les autres, voilà, nos amis, ceux qui travaillent avec nous, nos enfants, c'est quand même une quête importante dans notre société, et ce procès nous explique tout la disharmonie, toute la trahison, tout quelque part ce lien avec l'autre, l'altérité, comme il peut être très très, on va dire, très abîmé, très destructeur également.
Qu'est-ce que vous attendez du 20 décembre? Vous pensez qu'une décision de justice peut être à la hauteur?
Ce que je souhaite vraiment, c'est que pour ces prédateurs, il y ait vraiment des peines donc exemplaires. Ça, c'est important. D'envoyer ça à la société, de dire stop, parce que c'est aussi ça. Et quelque part, c'est souhaiter aussi la fin de l'impunité.
On va parler, Sandrine Josso, de ce qui reste à faire, des luttes à mener encore contre la soumission chimique. On se retrouve après Strawberries Fields Forever des Beatles, mais version Joe Anderson et Jim Sturgess.
Question genre, Christine Gonzalez. I'm going strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed.
On parle de soumission chimique cette semaine dans Question Genre, à quelques jours du verdict du procès des viols de Mazan. On parle de soumission chimique parce qu'on sait que c'est un fléau, mais on peine à mesurer à quel point. En Suisse, contrairement à la France, le phénomène n'est pas monitoré dans la statistique policière. On n'a pas de statistiques, tout simplement, Sandrine Josso. En France, vous avez des chiffres ?
En France, on a le chiffre des personnes qui portent plainte. De 2021 à 2022, les signalements pour soumission chimique ont augmenté de 69%. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas le chiffre réel, parce que une victime sur deux ne se rappelle de rien et très peu de victimes portent plainte. Néanmoins, cette augmentation, il faut quand même l'enregistrer et la noter. Elle a aussi bénéficié des vertus de MeToo. Malheureusement, aujourd'hui encore, il est difficile d'accéder à des preuves et je suis actuellement en mission gouvernementale à ce sujet pour faciliter l'accès à la preuve et faire en sorte que quand la victime a aussi des preuves, elle ait envie de porter plainte. Parce que aujourd'hui, en France et dans certains autres pays, il faut porter plainte pour pouvoir bénéficier d'analyses de sang et d'urine. Et je pense qu'il faut faire les choses différemment. Vous pouvez porter plainte directement si vous souhaitez et faire vos analyses de manière concomitante. Mais si, dans un premier temps, vous souhaitez juste faire des analyses et réfléchir, mettre voilà tout ce que vous avez autour de vous et vous dire bon, est-ce que je porte plainte, parce que ça a des conséquences de porter plainte, ça a des conséquences sociales, familiales, psychologiques, économiques. J'ai par exemple des personnes qui ont décidé de porter plainte, qui ont eu malheureusement des difficultés après à retrouver du travail parce que leur affaire a été médiatisée. Voyez, c'est tout ça qu'il faut mesurer. Néanmoins, il faut donner cette possibilité d'accéder à des preuves. Ça, c'est une priorité. Et puis, il faut de la réactivité parce que comme c'est un contre-la-montre, si on ne peut pas avoir des preuves très rapidement, eh bien, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et si vous êtes près d'un hôpital, par exemple en France et même dans d'autres pays, vous avez plus de possibilités d'accéder à des preuves. Mais si vous êtes loin, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une inégalité territoriale. Et ça, je pense qu'il faut... Il faut y travailler. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est surtout qu'il faut faire en sorte que les victimes déculpabilisent, parce que cette soumission chimique, ce procès aussi, nous fait comprendre que finalement, la psychologie, c'est vraiment la science du détail. Et quelque part, on ne voit que ce qu'on connaît. Donc, si on ne sait pas comment opèrent les prédateurs, si on ne sait pas ce que c'est la soumission chimique, eh bien, on se retrouve sans pouvoir. Il y a une expression qui dit que le savoir est un pouvoir. D'où l'importance de la sensibilisation, de la formation. Et puis, j'ai regardé aussi de très près comment les hommes et les femmes politiques réagissent à ce procès. Et moi, ce que je comprends quand même, c'est que les hommes et les femmes politiques, hein, comme certains citoyens, ont parfois une pensée indigente. Et là aussi, la démarche de chercher à comprendre les choses, elle doit être encouragée à tous les endroits. Et c'est pour ça que aujourd'hui dans la société, on se retrouve dans des situations où quelque part, quand une victime parle, quand on parle d'un sujet qui est pas très bien maîtrisé, et ben on se retrouve dans des situations où on va invalider vos propos. Avec des simplifications. Et puis, bah, vous savez plus quoi répondre. Et puis après, vous perdez un petit peu votre envie de voilà d'avancer et de parfois aussi porter plainte pour les victimes. Alors, il faut faire très attention à ça. Les victimes, elles doivent être bien sûr soutenues. Ça, c'est la première chose. Et le premier réflexe, c'est de leur poser des questions et aussi, bien sûr, de leur faire confiance. Et ça, on n'en a encore pas là, mais avec la formation, la sensibilisation, je trouve que déjà, on avance.
La sensibilisation, justement, c'est aussi de dire... Voilà, c'est une course contre la montre. Le problème qui se joue, c'est qu'entre l'événement et les prélèvements, ben voilà, la victime en général s'endort plusieurs heures ou consulte après plusieurs jours, et voilà, qui reste plus souvent, enfin parfois il manque de traces, en fait, de la substance dans le sang ou l'urine, et du coup manque de preuves.
Et il y a aussi une autre solution qui doit à tout prix être trouvée, c'est d'aller un peu plus loin dans les analyses. Quand il est trop tard, quand vous décidez ou que vous avez compris ce qui vous est arrivé beaucoup trop tard, bah, un mois après, vous pouvez aussi tenter de faire ce qu'on appelle une analyse des cheveux. Ça, c'est possible, ça devient possible et on s'est battu avec donc le Sénat pour faire en sorte que ces analyses séquentielles des cheveux puissent aussi être donc prises en charge, parce que c'est une solution. C'est sûr que le mieux, c'est le sang, parce qu'on a vraiment une précision, on va dire, sur le moment. Mais quand il est un peu trop tard, on peut aussi faire de l'analyse séquentielle des cheveux. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, pour Gisèle Pellicot, ça aurait pu être intéressant qu'elle fasse cette analyse bien avant. Parce que ses cheveux portaient toutes les traces de toutes les substances qu'il lui a données sur le long cours, Monsieur Pellicot. Voyez, donc ça aussi c'est une belle technologie, l'analyse séquentielle des cheveux, et on peut, je trouve, avec cette science aussi avancer. Hein, la toxicologie, c'est aussi une science qui mérite d'être encore plus accompagnée, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui sont des on va dire des personnes formidables qui ont des qualités, on va dire, de recherche, d'interprétation absolument remarquables. Et quand elles viennent à la barre, ces personnes, eh bien, comme on met un peu on remet un peu en cause leur on va dire leur expertise, parce qu'on connaît pas la toxicologie, elles sont parfois très malmenées à la barre. Voyez, et ça, il faut que ça change aussi, parce que l'analyse avec une expertise d'un toxicologue qui est vraiment reconnu, elle est très importante aussi pour qualifier les faits.
Parce que le procès des viols de Mazan aussi génère en Suisse, c'est aussi des discussions, c'est aussi des débats et des choses qui sont un peu dénoncées, comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique pour les agressions réalisées à l'aide d'une soumission chimique. Et puis l'accès aux substances aussi fait débat. L'accès aux substances qui sédatent, c'est un problème en Suisse aussi. Certains considèrent que c'est trop facile à obtenir ici des médicaments. C'est vrai que ces médicaments-là, on les a un peu toutes et tous dans nos armoires, quoi. Potentiellement.
Mais c'est cela dans notre boîte à pharmacie. Vous pouvez trouver des antihistaminiques, ce qu'on utilise pour le rhume des foins, les allergies. Après, vous pouvez très facilement vous faire prescrire par un médecin, un dentiste, un antidouleur que vous pouvez malheureusement détourner de son usage et mettre dans un aliment ou dans une boisson à des fins de soumettre quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi de très près. À plein d'endroits, hein, il faut faire en sorte que pour le prédateur, ce soit beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a souvent la perception que la soumission chimique, c'est le crime parfait, à cause de toutes ces facilités qu'il a à opérer.
C'est bientôt la fin de cette émission et j'ai envie de vous demander, Sandrine Josso, pour conclure, comment vous allez? Comment vous tenez depuis un an, depuis que vous avez été victime de soumission chimique? On vous voit sur tous les fronts, le front politique, le front médiatique, le front associatif. Comment vous allez?
Je tiens parce que je suis bien entourée. Et ça, j'ai beaucoup de chance en fait. Et parfois, ce que j'entends de la part des autres victimes, c'est que elles n'ont pas toujours un environnement qui est soutenant. Donc moi, je vais bien aussi parce que j'ai eu la possibilité d'être accompagnée dès le départ par des professionnels de la psychologie qui ont été absolument remarquables. Et je me suis aussi libérée du temps pour aller à tous ces rendez-vous. Je tiens aussi parce que j'ai aussi autour de moi des personnes soutenantes, mais je pense aussi, ne serait-ce qu'au niveau judiciaire, d'avoir un avocat qui est aussi formé à tous ces sujets-là. C'est aussi tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup mieux. Un an après, je suis, je pense, sur la bonne voie. Après, je vous cache pas que quand j'ai eu cette confrontation il y a un mois, j'ai eu un moment très difficile parce que il y a aussi des archaïsmes de la justice qui font que on se retrouve dans des situations qui sont traumatisantes. Néanmoins, je continue à prendre soin de moi parce que si je veux aussi faire en sorte que je puisse moi complètement me réparer et porter la parole des autres victimes qui sont dans l'ombre, je me dois d'être comme je me trouve peut-être comme une marathonienne quoi. C'est quand même un marathon de se relever de tout ça. Là, je fais une thérapie qui s'appelle la thérapie d'exposition prolongée jusqu'au mois de mai, qui m'amène chaque semaine à travailler en profondeur. J'ai fait avant de l'EMDR, mais pour vraiment finaliser, pour bétonner tout cela, je fais de la thérapie d'exposition prolongée que je suis de manière très très attentive. Et je crois beaucoup à tout cet accompagnement qui est plus que nécessaire, et je me battrai pour que toutes les victimes puissent avoir un accompagnement, parce que on n'oublie jamais en vrai. On vit avec, et c'est aussi toute cette résilience qui peut être à l'œuvre dans notre société si chacun et en capacité de se relever, et s'il retrouve des personnes ressources autour de lui pour le faire. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que mes pensées vont vraiment aux victimes, parce que les victimes, trop souvent, trop longtemps, elles ont été seules. Et aujourd'hui, étant donné que j'ai compris ce qu'elles vivent, parce que moi aussi, quelque part, je suis en immersion dans quelque part, cette douleur de cette nécessité d'être réparée de cette agression, eh bien, victime, vous n'êtes plus seule. Ça, c'est ce que je veux aussi leur faire dire, et toute la reconnaissance aussi à tellement de personnes qui me soutiennent. C'est un sourire, un mot gentil, c'est aussi un carburant, voilà, pour avancer sur ce chemin.
Grand merci d'avoir accepté l'invitation de Question Genre. Et je rappelle pour toutes les personnes qui nous écoutent que dans chaque canton en Suisse, vous trouverez un centre de consultation, la vie, centre de consultation pour l'aide aux victimes. À bientôt, merci Sandrine Josso.
Merci.
Et on se quitte avec Jad Wiyo Tsetse.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 2h.